الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Ikhwati al-kiram, dans la précédente intervention, nous avons expliqué que lorsque l'on veut réfuter le faux, il faut impérativement respecter certaines règles et comportements concernant les quatre points principaux de la réfutation qui sont, je rappelle, l'erreur elle-même, celui qui corrige l'erreur, le réfuté qui commet cette erreur, et la réfutation en soi, c'est-à-dire la méthodologie à suivre et la façon à employer dans la réfutation. Nous avons aussi précisé que le manque de compréhension, d'application et de maîtrise de ces points est ce qui a tristement amené beaucoup de jeunes à ne plus accorder d'importance aux réfutations, à douter de leur légitimité et tomber dans des dérives laxistes et extrémistes. Les mises en garde fallacieuses et réfutations malmenées de certains ont sinistrement causé de nombreuses divisions et donné une fausse image de la da'wa salafiyya. L'explication de ces points et leur compréhension sont donc très importantes, comme nous l'avons dit précédemment. Nous avons aussi expliqué les règles et comportements à observer concernant les deux premiers points, l'erreur et celui qui réfute l'erreur. Nous allons donc poursuivre dans l'allocution d'aujourd'hui, bi'idhnillahi ta'ala, celle-là, et expliquer le troisième point qui est le réfuté qui commet l'erreur. Il faut effectivement savoir qu'en ce qui concerne le réfuté qui commet l'erreur, aucune condition ne peut être émise comme règle. Peu importe donc l'individu qui commet cette erreur, il doit obligatoirement être réfuté. Il est important de comprendre cela et de le préciser, car comme nous avons pu le voir lorsque nous avons répondu aux principales ambiguïtés autour de la réfutation, certaines personnes rejettent la réfutation sous prétexte que le réfuté en question est un savant, un étudiant en sciences, un prédicateur, voire même en disant « c'est un frère salafi ». Ces personnes émettent donc une règle infondée et nouvelle sans s'en rendre compte. Car le résumé ou la traduction de cette parole est que pour eux, le savant, l'étudiant en sciences, le prédicateur ou le salafi sont préservés de toute réfutation alors que cela est totalement faux et infondé. Comme nous avons pu le démontrer précédemment, même les prophètes ont été corrigés dans le Coran. Même les compagnons dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été corrigés. Ils se sont corrigés les uns les autres. Comme l'on peut voir par exemple lorsque Aïcha radiallahu ta'ala anha a expliqué Al-Qur en ce qui concerne la période de menstrue, combien de temps la période de viduité, la période de retraite doit être en mois ou alors en période de menstrue. Les compagnons ont divergé à ce sujet-là et ils se sont répondus les uns les autres, ils se sont corrigés. Pourtant, ce sont les meilleurs des hommes après les prophètes. Que dire alors des personnes qui sont venues après eux et qui ne sont pas de ce rang? Nous avons en effet rappelé aussi que de nombreux textes du Coran et de la Sunna authentique, ainsi que l'unanimité des gens de science, démontrent l'importance et l'obligation de réfuter le faux, peu importe de qui il provient. Que l'intérêt de l'islam et des musulmans prime sur l'intérêt de ces individus. Cela entre dans le conseil envers Allah subhanahu wa ta'ala, envers son livre, envers son messager, envers les dirigeants musulmans, ainsi que l'ensemble des croyants. De même que le fait de corriger le faux, de condamner le blâmable, et de propager et de donner la vraie image à la vérité. C'est donc quelque chose d'infondé qu'on a pu malheureusement et tristement entendre, surtout ces derniers temps, dans les réfutations de certains et dans les réponses à ces réfutations. Il faut donc savoir qu'aucune condition ne peut être émise en ce qui concerne le réfuté lui-même. Peu importe qui il sera, peu importe son rang, peu importe son nom, peu importe son statut, peu importe sa fonction. Qu'il soit petit ou grand, cela n'est pas important. Et ici, lorsque l'on parle de petit, on parle principalement donc du petit en âge, mais entre aussi le statut. C'est-à-dire maintenant que ce soit un grand savant ou un étudiant en sciences, peu importe. Le fait que maintenant ce soit un grand ou un petit n'est pas quelque chose, un critère que l'on prend en considération et que l'on met, qu'on établit comme une règle. C'est-à-dire à partir du moment où il fait partie d'un certain rang, alors on ne fait plus de réfutation. Cela est faux. Peu importe aussi que ce soit un savant ou alors un ignorant. Même le savant, il n'est pas exempt de tomber dans les péchés, dans les erreurs, sinon ça revient à tomber dans d'autres ambiguïtés telles que les soufis, qui vont prétendre que leurs chouyours sont exempts de l'erreur, tomber dans le fanatisme, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a démenti cela lorsqu'il a dit « إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمْ فَأَصَبْ فَلَهُ أَجْرًا وَإِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمْ فَأَخْطَى فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc lui-même démontré que lorsque celui qui a les capacités de faire un effort d'interprétation a juste, il a alors deux récompenses. Tandis que lorsqu'il se trompe, il n'en a qu'une. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc affirmé qu'il peut se tromper. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset de sourate Yusuf « وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ » Et au-dessus de tout homme de science, il y a plus savant. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi dans l'autre verset « يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ » Il connaît leur passé et leur futur, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. On voit donc que la personne ne peut pas avoir la connaissance parfaite. Elle ne peut pas prétendre ne pas commettre d'erreur. Cela est impossible. De même que si cette personne est forte ou faible. Ici, lorsque l'on parle de force ou de faiblesse, c'est-à-dire que cette personne a des partisans qui le défendent et qui le suivent. Comme par exemple, pour certaines fitnas passées, que l'on a pu voir comme avec Ali Hassan al-Halabi, ou encore Yahya al-Hajouri, ou encore d'autres têtes de l'innovation, qui avaient effectivement des suiveurs qui les renforçaient. Malgré cela, cela n'a pas empêché les savants d'émettre des réfutations à leur égard. Donc peu importe que ces personnes-là aient donc des partisans ou non, qu'ils soient forts ou faibles, qu'ils aient maintenant une empreinte sur la communauté, qu'ils aient une stature, cela ne va pas nous empêcher de réfuter leurs erreurs. De même que, peu importe que cette personne soit meshhour ou marmour, qu'elle soit connue, qu'elle ait effectivement maintenant de la notoriété dans la communauté, ou qu'elle n'en ait pas. Cette notoriété ne l'exempte pas de la réfutation. Peu importe donc comment elle sera. De même que cette personne, qu'elle soit vivante ou morte, peu importe, cela n'empêche pas de réfuter le faux. Il est important de préciser cela car malheureusement, certains pensent que lorsque la personne est morte, elle n'est plus à réfuter. Alors que cela est faux, comme le démontrent par exemple les nombreuses réfutations que nos savants ont écrites à l'égard de têtes de l'innovation qui sont décédées. De même que ils les ont écrites même envers certaines personnes de la Sunna, comme par exemple l'imam Ibn Abi Shayba, rahimahullah ta'ala, dans son livre Al-Musannif, dans le premier tome, il a consacré une partie dans laquelle il réfute l'imam Abu Hanifa et les contradictions claires qu'il y a entre ses fatawas et certains versets du Coran ou Hadith. Il a répertorié comme ça plus de 80 sujets dans lesquels Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, le grand imam de l'islam, parmi les quatre écoles juridiques, a par erreur émis certains avis juridiques contraires à des versets et des hadiths authentiques. D'ailleurs, Cheikh Mokbel rahimahullah ta'ala a repris ce livre-là pour clarifier effectivement et amplifier certains sujets qui n'avaient pas été évoqués par l'imam Ibn Abi Shayba rahimahullah ta'ala dans son Musannif. Il a repris ces points-là en les détaillant et en a rajouté certains qui méritaient de l'être pour démontrer effectivement que l'imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala s'était trompé et avait contredit des versets du Coran et des hadiths dans certains avis juridiques. On voit donc que peu importe que la personne soit décédée ou non, cela n'exempte pas cette personne d'être corrigée et l'erreur d'être rectifiée pour ne pas être prise pour du vrai. On voit d'ailleurs tristement que les partisans des doctrines juridiques, ceux qui s'affilient à un madhhab particulier et n'en sortent pas, qui tombent dans le suivi aveugle de ce madhhab, malheureusement commettent ces erreurs car ils les prennent pour vérité. D'où l'intérêt de les rectifier et de montrer que ceci sont des erreurs à corriger. Pareil aussi, peu importe donc que cette personne, elle soit excusable dans son erreur, dans le fait qu'elle ait commis cette erreur ou non. Lorsque l'on dit qu'elle soit excusable, car malheureusement on entend certaines personnes des fois dire il a fait un effort d'interprétation, il n'a pas fait exprès, il a mal compris, ou encore c'est un ignorant. Ou d'autres excuses qui sont des excuses légitimes en islam, mais qui ne sont pas à prendre en compte lorsque l'on réfute l'erreur. Car ici, nous ne sommes pas en train de juger le cas de la personne, nous sommes en train de traiter l'erreur elle-même. Donc peu importe que cette personne-là, maintenant, ait effectivement des excuses légitimes en islam, il n'empêche que cette erreur doit être réfutée et corrigée pour qu'elle ne soit pas prise pour vérité. De même que, peu importe maintenant que cette personne ait été conseillée ou non. Et cela est malheureusement une grosse ambiguïté qu'on entend de nombreuses fois. Plusieurs fois on entend, mais c'est le frère a été conseillé. Peu importe qu'il ait été conseillé ou non, l'erreur doit être rectifiée. Le conseil concerne l'individu. La réfutation, elle concerne l'erreur. On ne s'attarde pas sur le cas de l'individu lorsque l'on réfute une erreur. On s'attarde sur l'erreur elle-même. Donc que cette personne ait été conseillée et même dans certains cas peut-être revenue sur la vérité, il n'empêche que cette erreur doit être rectifiée. On le voit d'ailleurs dans les nombreuses réfutations que nos savants anciens et contemporains ont écrites à l'égard des têtes pensantes de l'innovation qui se sont repenties avant leur mort. Ils ont été conseillés. Malgré cela, les savants ont quand même écrit des réfutations. On peut donc rajouter aussi que peu importe que la personne, que le réfuté, se soit repenti ou non, cela ne l'exempte pas non plus de la réfutation. Vous prenez par exemple Al-Juhayni, ou encore Al-Imam Al-Ghazali, ou alors Al-Razi, ou alors encore l'imam Ibn Aqil, ou d'autres imams qui étaient des têtes pensantes de l'innovation à leur époque, et à la fin de leur temps, ils sont revenus sur la salafiyya. Cela n'a pas empêché les savants, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nos jours, de clarifier que les paroles qu'ils ont pu tenir dans tel ou tel ouvrage sont des erreurs. Car on ne regarde pas l'individu lui-même, s'il a été conseillé, s'il est revenu sur la vérité, s'il s'est repenti ou non. Mais on regarde l'erreur qui doit être rectifiée. De même que, peu importe qu'il soit sunni, et tout ce que cela comprend, ou mubtadi', ou innovateur. Et cela est malheureusement ce que l'on entend de trop nombreuses fois de la part de certains ignorants ou de personnes qui ne se sont pas suffisamment enracinées dans le sujet de la réfutation. Lorsqu'ils entendent qu'un tel a été réfuté, ils nous disent mais c'est un salafi. Il y a plus d'intérêt, comme nous l'avons clarifié dans la précédente allocution, à rectifier le musulman que le non-musulman, car l'erreur du musulman peut être prise pour vérité, alors que l'erreur du non-musulman est connue de tous. Il en va de même pour le salafi et l'innovateur. Il est sûrement prioritaire de corriger l'erreur provenant d'un salafi que celle venant d'un innovateur. Car celle qui provient d'un salafi peut être prise pour une vérité par de nombreuses personnes qui n'ont pas suffisamment d'enracinement et de connaissances pour distinguer cette erreur-là. Alors que l'innovateur, les gens s'en méfient. Donc peu importe que la personne qui ait commis cette erreur soit salafi ou non, soit salafi ou innovateur, dans tous les cas, ce que l'on doit faire, c'est de corriger l'erreur. Encore une fois, on ne s'attarde pas sur le cas de l'individu, mais on s'attarde sur le cas de l'erreur qui doit être corrigée pour ne pas être prise pour vérité et se répandre. Ainsi, tous les points que l'on vient de citer, c'est-à-dire que la personne soit petite ou grande en statut, qu'elle ait un statut élevé ou non, qu'elle ait de l'importance dans la communauté ou non, qu'elle soit savante ou ignorante, qu'elle ait des suiveurs et des partisans ou non, qu'elle soit connue et de la notoriété ou non, qu'elle soit vivante ou morte, qu'elle ait des excuses ou non, que cette personne-là ait été conseillée ou non, qu'elle se soit repentie ou non, qu'elle soit sunnie ou non, tout cela ne sont pas des critères que l'on prend en considération lorsque l'on réfute le faux. La seule chose à prendre en considération dans le cas de tous ces individus qui viennent d'être énumérés, c'est la manière de les corriger. On ne va pas se comporter avec le savant comme on va se comporter avec l'ignorant. On ne va pas se comporter avec le sunni comme on va se comporter avec l'innovateur. La manière de réfuter une erreur qui provient d'un salafi, d'une personne qui s'apparente et s'affilie à la salafie, n'est pas la même manière que l'on va avoir pour réfuter un innovateur qui rejette la sunna. Particulièrement si celui-ci n'est pas réfractaire à la réfutation et au conseil. On va encore adopter une autre manière. C'est donc la manière qui est à observer dans le cas de ces individus et non pas le statut de ces individus. On doit faire attention à la manière et c'est ce qui a malheureusement causé le plus de troubles dans les rangs de la salafie ces dernières années. Car malheureusement, les personnes qui ont voulu émettre des réfutations, ils se sont concentrés sur l'erreur elle-même, sans même observer le cas des individus. Ils ont ainsi traité le cas du salafi comme le cas de l'innovateur et se sont comportés avec eux de la même manière. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Afanaj'alu al-muslimina kal-mujrimin » Allons-nous mettre au même rang les criminels et les croyants? Il ne convient donc pas, lorsque l'on réfute l'erreur qui provient d'un salafi, de se comporter de la même manière que l'on réfute un innovateur. Malheureusement, ces personnes-là, au penchant extrémiste, haddadi, qui se comportent avec eux d'une manière aux antipodes de l'islam, ils se concentrent sur l'erreur elle-même et avancent des paroles de savants pour essayer de défendre leur position, pour dire qu'ils n'ont pas mal agi, pour dire que ce qu'ils font, c'est ça l'islam. C'est faux. Ce n'est pas ça l'islam. L'islam agit avec équité, mais cette équité n'est pas synonyme d'égalité. Il faut bien comprendre que l'équité entre les gens, le fait que justement on réfute tous ces individus, c'est l'équité de l'islam. Si on réfute le savant comme on réfute l'ignorant, si on réfute le sunni comme on réfute l'innovateur, c'est par équité. Mais cette équité n'est pas synonyme d'égalité. On ne se comporte pas avec le sunni comme on se comporte avec le mubtadi. C'est dévastateur de se comporter de cette manière. Et on en voit malheureusement les traces dans notre communauté. Toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin dans ces mises en garde fallacieuses ont une part dans les troubles qui ont été causés dans les rangs de la salafia jusqu'à aujourd'hui. Combien de frères ont été mis en garde alors qu'ils ne le méritaient pas? Combien d'erreurs ont été traitées d'une certaine manière qui ont fait fuir les gens de personnes qui avaient du bien et qui pouvaient propager l'islam et la sunna alors que ce n'était pas la manière d'agir? Ces personnes-là, sans même s'en rendre compte, ils ont une part de responsabilité sur laquelle ils devront répondre Yom al-Qiyam. D'où l'intérêt de rester à sa place. Quand on n'a pas étudié le sujet de la réfutation, quand on ne maîtrise pas les points de la réfutation, on ne s'avance pas dans ce sujet important. On laisse cette affaire aux gens de science. D'ailleurs, nous avons vu précédemment que lorsque on réfute quelqu'un, il y a deux cas. Soit le fait de transmettre les paroles des gens de science à ce sujet, et dans ce cas-là, on ne mettra pas de conditions. La personne de la masse, comme l'étudiant, a la possibilité effectivement de transmettre les paroles de science en ce qui concerne une erreur. En revanche, lorsque cette personne parle d'elle-même, qu'elle n'a pas consulté de savant, qu'elle ne transmet pas les paroles des savants, alors elle n'a pas le droit de s'avancer sur ce sujet, sauf si maintenant c'est une personne enracinée parmi les gens de science. Malheureusement, tous les troubles qui ont été commis dans la communauté ces dernières années, c'est à cause de ces points principaux qui n'ont pas été observés et respectés. Des mises en garde provenant de personnes qui ont pris des responsabilités dans la prédication et l'enseignement, alors que cela ne dépend pas de leurs compétences. Inéluctablement, ils se sont trompés dans la manière de traiter ces erreurs. Le seul exemple que j'ai pu avoir en tête, un exemple correct de la manière de réfuter, et la réfutation que le noble frère Abdelmalik Abou Adem a pu faire à Cheikh Chalabi, hafidahumullah ta'ala. Le frère s'est concentré sur l'erreur. Il ne s'est pas attardé sur des attaques et de la bassesse dans la réfutation, comme on a pu voir de certaines autres personnes qui se sont amusées à tenter de rabaisser les uns et les autres par rapport à leur niveau ou quelques erreurs linguistiques ou autres. À la manière des Haddadi, ça c'est la manière des Haddadi de maintenant venir dénigrer leur frère avec certaines erreurs qui en réalité ne sont pas à prendre en considération dans une réfutation. On ne réfute pas une personne parce qu'elle a commis une erreur de fatha ou de kasra dans un verset du Coran. Ou alors parce qu'elle a mentionné un hadith en citant une source qui n'était pas la bonne. Les plus grands imams n'ont pas été exempts de se tromper. Comment peut-on reprocher alors à certaines autres personnes de se tromper des fois dans l'énonciation de certaines sources, ou alors de lire peut-être trop rapidement, ou alors d'avoir ce qu'on appelle sebq al-lisan, c'est-à-dire maintenant faire un lapsus de langue? Comment peut-on prendre ces erreurs-là pour les mentionner dans des réfutations et s'acharner contre des gens de la sunna? Toutes ces personnes-là auront une part de responsabilité sur laquelle ils devront répondre yawm al-qiyam, de ne pas avoir laissé cette affaire-là justement aux gens de science, qu'ils soient de près ou de loin. Parce que malheureusement, derrière l'arbre qui cache la forêt, il y a souvent de nombreuses personnes. Malheureusement. Il convient donc d'observer tous ces points-là que l'on vient de mentionner. C'est-à-dire que lorsqu'on réfute une erreur, on ne s'attarde pas sur le cas de l'individu. On ne regarde pas si maintenant c'est un savant ou un ignorant, un sunni ou un innovateur. La chose sur laquelle on s'attarde, c'est la manière avec laquelle on va réfuter cette erreur. On ne va pas se comporter de la même manière avec toutes ces personnes. Une personne qui s'est repentie de cette erreur-là, même si nous corrigeons l'erreur, on ne va pas se comporter avec elle comme celui qui ne s'est pas repenti. On ne va pas corriger celui qui accepte le conseil, mais tarde à rectifier son erreur, comme avec celui qui maintenant nie son erreur ou encore refuse de se corriger. Tout ça, ce sont des paramètres à prendre en compte dans la manière de réfuter l'erreur. Même si au final, effectivement, nous sommes d'accord et nous confirmons que l'erreur doit être réfutée. Wa naktafi bihadha al-qadr. Et la prochaine fois, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, nous verrons donc le dernier point, et ce cinquième volet mettra donc fin à cette série d'allocutions sur les règles de la réfutation sans laxisme ni exagération. On verra le point de la réfutation elle-même. Quand est-ce que l'on doit adopter de la sévérité et quand est-ce que l'on doit être plus doux dans la façon de corriger cette erreur-là, ainsi que l'équité, et que celle-ci n'est pas synonyme d'égalité. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.